Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
priez pour
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bon, c'est vous. Alors, d'abord, petite annonce. Donc, le cours d'exégèse commencera le premier mardi du mois de janvier. Ensuite, si Dieu veut, donc tous les jeudis, je ferai le cours sur Saint Thomas d'Aquin, 8h30 ici. Et puis, tous les mardis, le cours sur l'exégèse de l'évangile, des évangiles, en commençant par l'introduction, puis après, l'évangile selon Saint Matthieu. J'ai déjà mis sur Internet, je pense que vous avez vu. Donc, un premier polycopié sur, avec les explications qui ont servi en quelque sorte de colonne vertébrale au cours sur l'introduction. Et puis, j'ai mis aussi les débuts de Saint Matthieu. J'ai dû mettre chapitre 1 à 5. Le 17, je mettrai, 17 décembre, je vais chez des amis qui vont me mettre le deuxième polycopié que j'ai fini aussi, chapitre 6 à 10. Et je pense que j'aurai terminé la troisième partie aussi, chapitre 11 à 15. Petit à petit, on mettra tous les polycopiés au fur et à mesure que je finis le travail de traduction que j'ai à faire, parce que c'est un cours que je fais en deux langues, donc il faut que je traduise tout, la partie anglaise en français. Alors, je voudrais aussi reprendre une chose que j'ai dite la dernière fois, qui est fausse en fait, ou mal expliquée plusieurs fois. Donc j'ai expliqué en suivant saint Thomas d'Aquin, j'ai dit que saint Thomas d'Aquin suivait saint Augustin. Et ce qu'il va faire, c'est reprendre toute la philosophie, la théologie de Saint-Augustin sur la grâce, et il va la synthétiser, la concrétiser, et je dirais peut-être augmenter encore un petit peu la profondeur théologique, en utilisant les bases de Saint-Augustin, qui sont toujours valables. Donc, je vous ai dit que la vertu principale, ça c'est très important à comprendre, la vertu principale dont on a besoin pour étudier la grâce, c'est l'humilité, hein, surtout avec Saint-Thomas. Et Saint-Augustin aussi, à tel point que beaucoup de gens se heurtent à cette théologie de Saint-Thomas en disant « mais il ne reste plus rien du libre-arbitre, il pousse beaucoup trop sur la volonté divine et pas assez sur la volonté humaine ». Il y a un mystère, hein, on touche à un mystère, il faut bien comprendre ces choses-là. Et c'est fait partie de ces points de doctrine qu'il faut savoir accepter, même s'il y a des parties mystérieuses. La prédestination, c'est pareil, c'est des parties mystérieuses. Il y a des saints qui ont essayé trop y penser, qui ont failli perdre la foi. Je vais donner l'exemple de Saint Vincent de Paul, entre autres, et Saint François de Sales. Et bien, avec la grâce, c'est un peu pareil, il y a un mystère. Hein. Il faut s'accrocher aux deux choses qui sont sûres. D'une part, la grâce de Dieu est toute puissante, et sans la grâce du bon Dieu, on ne peut pas bouger le bout du petit doigt. Deuxième chose, la grâce toute puissante du bon Dieu ne détruit pas notre libre arbitre. Alors, comment les deux choses peuvent être mises ensemble, c'est un ou le mystère. Alors, la dernière fois, j'avais repris un peu un texte de saint Augustin, donc, et des pères, qui parle donc du voler, du posser. De voler, c'est vouloir, du verbe latin, et posser, c'est du pouvoir. Donc, on commence par le vouloir, on veut quelque chose de bon, et ensuite, il faut passer au pouvoir. Pouvoir mettre en action cette bonne idée. Bon. Donc vous avez une bonne idée que le bon Dieu vous donne, ça c'est le vouloir. Ça ne suffit pas. Il faut que Dieu vous permette que cette bonne idée se concrétise. Ça c'est le pouvoir. Et ça ne suffit pas encore, parce qu'une fois qu'on a commencé à faire l'action, il faut que Dieu la maintienne. D'accord ? Il faut soutenir. Donc il y a trois étapes en quelque sorte, je pense qu'ils vont m'expliquer comme ça. Le vouloir, le pouvoir et soutenir. Donc voler, posséder, soutenir. Hein. Donc voler, vouloir, ça correspond à la grâce suffisante. J'expliquerai ça plus tard. Posséder, c'est le pouvoir, ça correspond à la grâce efficace. Dieu nous donne les moyens de mettre en pratique une bonne œuvre, une bonne chose qu'on veut faire. Et la bonne, le fait qu'on veuille quelque chose de bon vient déjà de Dieu. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc la bonne idée au départ ne vient pas de nous, mais de Dieu. Dieu permet que cette bonne idée passe en pratique. Donc il est obligé d'intervenir là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on a commencé l'œuvre bonne, avec la grâce du bon Dieu, c'est Dieu qui va aussi la maintenir. Saint Thomas explique très bien ça, on verra ça plus tard, c'est dans une autre partie de la somme. Saint Thomas d'Aquin explique très bien ça quand il parle de la vertu de force. La vertu de force qui est une vertu combative, c'est la vertu du soldat qui se bat contre l'adversaire. Et il explique bien que dans la vertu de force, il y a deux parties. Il y a d'une part une partie d'adrénaline, en quelque sorte d'adrénaline physique qu'il faut pour se battre contre l'ennemi. Donc il faut s'engager à fond dans le combat, ce qu'il appelle, il appelle ça la grédie, la partie agressive. On se bat contre l'adversaire pour prendre la place. Une fois qu'on a pris la place, une fois que la grédie est terminée, la partie agressive est terminée, il ne faut pas se dire, bon maintenant je fais la sieste. Non, le plus dur reste à faire, ça, il faut conserver la place. Parce que l'ennemi, une fois mis dehors, il va chercher à revenir. Il faut se rappeler ce qu'a dit notre Seigneur là-dessus, en disant que quand un démon a mis en dehors d'une âme, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas se dire, bon non plus, je reviens. Il m'a mis dehors, bon ben, tant pis, bon, qu'il aille au paradis. Non, pas du tout. Il va chercher à revenir. Trouvant l'âme tout ornée, dit notre Seigneur Jésus-Christ, il va chercher sept démons pires que lui pour revenir. Et donc, après avoir pris la place, c'est-à-dire une fois qu'on a occupé la place avec la grâce sanctifiante, il s'agit de conserver la grâce sanctifiante. Et qu'est-ce qui est plus difficile? Ce qui est en fait plus difficile, c'est de conserver la grâce sanctifiante. Et c'est là où le bon Dieu doit intervenir encore une fois. Donc le bon Dieu intervient en quelque sorte à trois niveaux. Il va commencer à intervenir pour qu'on veuille déjà les bonnes choses, qui correspondent à la grâce suffisante. Il faut ensuite que cette bonne idée qu'on a passe en pratique avec une grâce efficace. Et ensuite, il faut encore des grâces actuelles une augmentation de la grâce sanctifiante pour que cette bonne œuvre puisse continuer dans le temps. D'accord ? Donc c'est Dieu qui nous crée, une autre façon d'expliquer ça en philosophie, on dit que Dieu nous crée, nous maintient dans l'être. C'est vrai. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut beaucoup, beaucoup d'humilité pour comprendre ces choses-là, pour essayer d'accepter la doctrine des pères sur le sujet. Et surtout pas tomber dans les idées modernes qui consistent à dire que finalement, c'est notre volonté qui fait tout le travail. Et le bon Dieu, il est là un petit peu pour nous applaudir un petit peu de temps en temps et nous donner un petit grain de sucre pour nous aider à continuer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, sinon, on tombe, je l'ai expliqué la dernière fois, je vais pas y revenir, on tombe dans le pélagianisme. Donc rappelez-vous les deux erreurs pélagiennes, le pélagianisme et un pélagianisme masqué qu'on appelle le semi-pélagianisme. En fait, ça revient au même. Pélagianisme, c'est dire, il n'y a pas de péché originel, l'homme est bon, je fais le travail par moi-même pour aller au ciel par la force du poignet. Semi-pélagianisme, le bon Dieu commence le boulot, ou je commence le boulot moi-même, je commence le travail moi-même, puis le bon Dieu intervient. Ou le bon Dieu commence le travail, puis j'interviens. Et non, c'est le bon Dieu qui permet qu'on commence et qui nous maintient dans l'œuvre. Alors, on va avancer dans le polycopier, parce que sinon, on va rester sur la grâce pendant des siècles. Quand même avancer, bien que ce soit une des questions les plus importantes de la somme. Hein. Je pense que la question 109 de la prima secundae, première partie, la deuxième partie, question 109, est certainement une des questions les plus importantes de la somme. Celle sur la grâce, donc il faut que les choses soient justement claires là-dessus. Donc on est à la page 81 sur le polycopier avec l'article 7. L'homme peut-il sans la grâce se relever du péché? Alors on va d'abord résumer un petit peu l'enseignement de saint Thomas d'Aquin et ensuite essayer de l'expliquer. Donc qu'est-ce que nous dit saint Thomas d'Aquin? Saint Thomas d'Aquin va Saint Thomas d'Aquin va résumer les choses. C'est un article très important entre autres pour lutter contre le pélagianisme. N'oubliez pas que saint Thomas reprend saint Augustin, et saint Augustin est le grand adversaire du pélagianisme. Mais le pélagianisme, c'est sûr pareil. Lorsqu'une hérésie disparaît dans l'Église, contre l'Église, elle passe dans le sous-sol, et puis elle repart un peu plus tard par un autre trou, sous un autre nom, sous une autre forme. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et dans le naturalisme qu'on voit actuellement, qui est très clair, je l'ai déjà dit la dernière fois chez Bergoglio, c'est du pélagianisme pur. D'accord ? Il ne se cache même plus. Alors, voilà ce que dit Saint Thomas d'Aquin. Donc, on est à l'article 7, titre. Donc, l'homme peut-il sortir de l'état du péché sans le secours de la grâce? La réponse est évidemment non. Bon, les pélagiens disent oui. D'accord? C'est très important d'expliquer ça aux jeunes. Parce que les jeunes se disent, bon, les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Souvent, les gens se disent, bon, ben, je veux pécher, d'accord, je commence à offenser le bon Dieu, mais j'irai me confesser demain. Ben, ils oublient que pour se confesser demain, il y a un certain nombre de conditions qui soient la première condition, c'est d'être vivant. Deuxième condition, c'est de trouver un prêtre. Et troisième condition, d'avoir reçu du bon Dieu la grâce qui nous permet de nous confesser. Sinon, ben, on fait des confessions qui sont plus purement, on a une contrition purement naturelle. Vous voyez, il ne faut pas oublier ça, c'est très important dans cet article, c'est que la contrition doit être surnaturelle pour être valable. N'oublions pas que c'est une des conditions qui est dans toute l'aide dans le Concile de Trente. Quand le Concile de Trente analyse les qualités de la contrition, donc on parle d'une contrition interne, surnaturelle, universelle et souveraine. Et la condition la plus importante, c'est que la contrition doit être surnaturelle. Surnaturelle, ça veut dire minimum du minimum, ce qu'on appelle la contrition...
L'attrition,
c'est ça, l'attrition, la contrition... imparfaite, au minimum regretter son péché par peur de l'enfer. Mais regretter son péché par peur de l'enfer, c'est déjà quelque chose de surnaturel. Donc les gens nous posent la question, est-ce que je peux regretter mon péché par peur de l'enfer tout seul? Non! Parce que c'est déjà quelque chose de surnaturel. Qui dit surnaturel dit au-dessus de la nature, il faut que Dieu s'en mêle pour permettre que vous ayez une contrition surnaturelle de votre péché. Voilà pour tout le monde, y compris pour moi. D'accord? C'est ce que dit saint Thomas à partir d'une citation de saint Paul au Galates, chapitre 2, verset 21. Si la justice s'acquiert par la loi, en vain le Christ est mort. Donc ce n'est pas la loi qui va nous donner la justice, c'est le bon Dieu. D'accord? C'est le bon Dieu qui va utiliser la loi, mais c'est le bon Dieu. Pourquoi? Parce que, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin, donc on va reprendre ça avec le texte, page 81. Donc si l'homme possède une nature qui puisse le justifier, c'est vainement, sans cause et sans but, que le Christ est mort pour lui. D'accord? Et ça, c'est Bergoglio tout craché. L'homme est naturellement bon. L'homme a naturellement la grâce en lui, parce que la grâce est une partie de sa nature. J'ai déjà expliqué ça, mais il faut revenir constamment, parce que c'est la base du modernisme actuel. Saint-Pélie, je vous l'ai déjà dit, a dit que le modernisme était l'égout collecteur de toutes les hérésies. Donc avec les époques, le modernisme va changer de couleur. Le modernisme du temps de Saint-Pélice est toujours le modernisme actuel. Mais la présentation du modernisme par les ennemis de l'Église en 1910, au moment de la condamnation, 1907, pardon, condamnation par Saint-Pélice, n'est plus la même que la présentation actuelle. D'accord? Parce qu'à l'époque, le modernisme se battait avec, comme gouverneur de l'Église, à la barre, il y avait un Saint-Pélice. Bon, actuellement, c'est un Bergoglio, c'est pas tout à fait pareil. D'accord? Et donc, le démon a les coudées libres maintenant, parce que le meilleur ami du démon actuellement, c'est Bergoglio, hein, le plus grand. Quand les gens me disent tout le temps, ça les fait un peu sourire quand je dis ça, ils me posent souvent la question, quel est pour vous le plus grand révolutionnaire? Je réponds toujours Bergoglio, parce qu'il a une responsabilité énorme, à cause du pouvoir qu'il a. Du pouvoir qu'il a. D'accord? Donc, faire attention. Donc, voilà ce que dit saint Thomas. Si l'homme possède une nature qui puisse se justifier, c'est vraiment sans cause et sans but que le Christ est mort pour lui. Cette doctrine répugne, donc il ne se peut pas que l'homme se justifie sans le secours de la grâce. Conclusion, la grâce est nécessaire pour la justification. Pas simplement pour la justification finale à la fin des temps ou à la fin de la vie, justification même au jour le jour, à l'heure, heure par heure, à chaque fois qu'on a le malheur de commettre un péché grave. On a le malheur de commettre un péché grave, pour regretter son péché j'ai besoin d'une grâce. Pour me maintenir dans ce regret de mon péché, j'ai besoin d'une grâce. Pour que le regret soit bien surnaturel, j'ai besoin d'une grâce. Pour que ce regret soit surnaturel jusqu'au moment de la confession, j'ai besoin d'une grâce. Et pour pouvoir recevoir avec une contrition surnaturelle l'absolution sacerdotale, j'ai encore besoin d'une grâce. Vous voyez? Alors évidemment, quand on explique ça, les gens disent, mais alors, mon travail là-dedans, c'est quoi? Le travail, c'est la réponse à la grâce. C'est bon Dieu qui frappe, c'est bon Dieu qui fait tout le travail, il faut ouvrir la porte. Bon. Le problème, c'est est-ce que je peux ouvrir la porte par mes propres forces? Non. Vous voyez, c'est pour ça que la base de la doctrine de l'Église sur la grâce, c'est l'humilité. Et c'est l'orgueil qui détruit l'homme. C'est pour cela que Saint-Pélice a bien expliqué avec raison qu'à la base du modernisme, on a l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui a détruit l'Église aujourd'hui. Non, pas l'Église qui est indestructible en tant que telle parce qu'elle est divine, hein. Mais je dirais, ce sont les hommes d'Église qui sont tombés dans l'orgueil, et le fait qu'ils soient tombés dans l'orgueil, c'est très net chez Bergoglio. Bergoglio est un homme extrêmement orgueilleux, malgré les apparences. Pourquoi? Parce que son orgueil le pousse à à penser que l'Église s'est trompée pendant 20 siècles. En gros, c'est ça. L'Église s'est trompée pendant 20 siècles. On savait pas comment faire les choses. Maintenant, on sait. J'ai des catholiques de nom, ou des gens qui pratiquent le modernisme, qui vont à la messe presque tous les matins, qui m'ont sorti parfois. Mais pendant l'Église n'a pas su comment missionner pendant 20 siècles. Pendant 20 siècles, l'Église ne savait pas comment prêcher l'Évangile. C'est ce qu'on m'a sorti. Mais attendez, ça veut dire qu'un saint François Xavier ne savait pas comment missionner, et un saint Ignace de Loyola ne savait pas comment missionner. Les apôtres, ils sont fichus dedans complètement, mais ils ne savaient pas comment missionner. Mais on prend pour qui ici? Je ne sais pas si vous comprenez le degré d'orgueil qu'il faut pour qu'un prêtre me sorte ou un laïc me sorte, un laïc catholique, hein, au moins en partie, que quelqu'un comme ça me sorte. L'Église n'a pas su prêcher l'Évangile pendant 20 siècles jusqu'au Concile Vatican II. Parce que ça, c'est, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ce que pensent pratiquement tous les prêtres modernes. L'Église, jusqu'à Vatican II, n'a pas su prêcher l'Évangile. Heureusement que Vatican II est arrivé, vive Saint Jean 23, c'est grâce à lui qu'enfin l'Église s'est enfin occupée des pauvres. Comme si l'Église n'était jamais occupée des pauvres. Si vous regardez un peu ce qu'a fait le Moyen-Âge, hein, ils sont les premiers qui viennent à la crèche. Je m'excuse, c'est les bergers. Hein. Et qui est-ce qui s'est occupé des pauvres en tout Moyen-Âge chrétien? Uniquement l'Église. Et si l'Église n'était pas occupée, l'Europe aurait littéralement disparu. Qui est-ce qui soignait les lépreux? Qui est-ce qui soignait les pestiférés? Qui est-ce qui soignait toutes les maladies épouvantables de l'époque? C'était l'Église. Hein, les hôtels-dieu, c'était quoi? Comment on appelait un hôpital au Moyen-Âge? L'hôtel-dieu. Vous savez bien ce que ça veut dire? L'hôtel de Dieu. Hôtel H-O-T-E-L. L'endroit où les pauvres pouvaient aller, et tout le monde allait être soigné gratuitement en plus. Il n'y avait pas de sécurité sociale, parce que tout était gratuit. Même pas besoin de sécurité sociale à l'époque. Et c'est l'Église qui a tout fait. L'Église qui a tout fait. Non seulement au niveau des âmes, mais aussi au niveau des corps, au niveau des intelligences. C'est l'Église qui avait pris entièrement en main l'éducation, par exemple. Tant l'éducation primaire, que l'éducation secondaire, que l'éducation universitaire. Et c'était tout le travail de la Révolution d'arracher l'université aux mains de l'Église catholique, première étape, puis ensuite d'arracher l'école secondaire aux mains de l'Église catholique, puis arracher le primaire. Et là, ils ont utilisé l'instituteur laïque pour faire tout ce travail. Vous voyez, donc c'est pour ça que toutes ces parties de Saint Thomas sont extrêmement importantes. Donc on continue. Donc, sortir du péché, ce n'est pas simplement cesser de pécher, c'est recouvrer les biens perdus par le péché. Ça, il faut bien comprendre ça dans l'esprit de Saint Thomas. Je donne souvent un exemple, je donne toujours le même, mais il faut revenir sur les mêmes choses. Certaines personnes qui disent je répète toujours la même chose, mais il faut répéter toujours la même chose. On dit qu'il faut répéter 70 fois une chose pour que ça rentre dans l'intelligence. D'accord? Donc, l'exemple que je donne toujours, c'est quelqu'un qui est tombé dans un torrent, en cru, qui dévale la pente avec le torrent. Bon, alors, il est complètement. Il dévale, puis il descend. Et puis à un moment, il arrive à s'accrocher à un rocher, et le rocher sort un peu de l'eau, donc il se met sur ce rocher. Ça y est, Dieu grâce, je me suis arrêté. Bon, il ne faut pas qu'il se dise, bon, maintenant je fais la sieste, je me suis arrêté, tout va bien. Il faut remonter maintenant. Il faut remonter à l'endroit où on était, d'une part, et ensuite continuer le travail, remonter jusqu'à la source. C'est ce qu'on cherche à faire, vous voyez. Et donc, pour ça que saint Thomas d'Aquin explique, sortir du péché, c'est pas simplement cesser de pécher, c'est recouvrer les biens perdus par le péché. D'accord? Alors, donc, saint Thomas va expliquer qu'en péchant mortellement, si vous voulez, l'homme va faire à son âme un triple dommage. Bon, qu'il appelle la tâche, le désordre et la damnation. D'accord? Comment expliquer bien ça? Donc, la tâche. La tâche, elle provient de l'absence de grâce. On dit que le péché, c'est la carence du bien dû. C'est ça le mal. Définition du mal chez saint Thomas, carence du bien dû. Carence du bien qui devrait être dans une nature donnée. D'accord? Bon. Par exemple, une intelligence manque chez un enfant, c'est quelque chose qui n'est pas bon, parce que normalement, dans un enfant, il doit y avoir une intelligence. Bon. Par contre, si l'intelligence manque chez un chien, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas supposée être dans une cervelle de chien. D'accord? Donc, première chose, la tâche. Donc voilà comment explique saint Thomas. La tâche provient de l'absence de la grâce qui embellit l'âme par l'éclat de sa lumière. La beauté ne peut être rendue à l'âme si Dieu ne l'éclaire de nouveau par un don habituel qui n'est d'autre que la lumière de la grâce. Donc Dieu, en quelque sorte, imaginez quelqu'un on peut prendre une image pour expliquer. Imaginez quelqu'un qui s'éclaire plus ou moins sur son chemin, il est en pleine nuit, il ne voit plus rien, il a une petite lampe à huile, une petite lampe tempête pour s'éclairer, et puis il tombe et la lampe s'éteint. La lampe s'éteint. Il s'arrête, il ne peut plus avancer, il ne voit plus rien. Bon, nuit noire, il n'y a pas de lune, il ne voit rien, il attend. Et est-ce qu'il peut faire par lui-même quelque chose? Il ne peut rien faire. Dieu envoie un ange avec un briquet pour rallumer la mèche. Bon, ça c'est le bon Dieu qui fait. Est-ce que l'homme est capable de rallumer sa mèche par lui-même? Incapable, il ne peut pas, il n'a rien. Donc l'homme, Dieu arrive, directement ou indirectement, et va rallumer cette mèche. Bon. Donc l'homme peut continuer. Mais est-ce que l'homme est capable de garder cette mèche allumée par lui-même? Et non, pour garder la mèche allumée, il faut encore que l'ange soit là ou Dieu soit là pour aider l'homme à garder la mèche allumée. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Il faut bien réfléchir à tout ça. Souvent, on ne pense pas à tout ça quand on commet un péché. Première chose, la tâche. La tâche, ça veut dire l'absence de beauté spéciale que Dieu a mis dans une âme. N'oublions pas qu'une âme baptisée a en soi une gloire extraordinaire. J'ai souvent cité cette phrase que Mgr Lefebvre nous avait donnée une fois, qui m'avait beaucoup frappé au cours des récréations. J'ai expliqué ça souvent, mais il faut y revenir. Au cours des récréations, donc le Mgr, un séminariste avait dit qu'il valait mieux être un bon protestant qu'un mauvais catholique. Et Mgr l'avait repris en disant non, parce que le mauvais protestant n'est pas baptisé, alors que le catholique est baptisé. Et donc il y a une lumière spéciale sur la grâce, sur une âme catholique qui ne peut pas être détruite. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est le caractère. Le caractère du baptême ne peut pas être détruit. Le caractère d'un sacrement de confirmation ne peut pas être détruit. Et le caractère de l'ordre ne peut pas être détruit si c'est un prêtre. D'accord? Donc, deuxième dommage. Premier dommage, la tâche. Deuxième dommage, le désordre. Pourquoi? Pourquoi le désordre? Nous avons vu plus haut que la volonté de l'homme ne peut se retourner vers Dieu à moins que Dieu lui-même ne l'attire à lui. L'ordre légitime ne peut donc être établi par Dieu. Le péché introduit, si vous l'avez expliqué comme ça, le péché introduit dans l'âme un désordre. Retour à l'ordre peut être fait que par le bon Dieu. Bon, on peut expliquer ça aussi très facilement à partir des dons préternaturels. Un des dons préternaturels, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est l'ordre. Intégrité ou ordre, c'est pareil. C'est ordre voulu par Dieu dans une âme. L'ordre des choses, chaque chose a sa place. Si chaque chose est à sa place, les choses sont bien gardées. Donc, le péché va introduire un désordre. Qui dit désordre dit destruction du don d'intégrité. Alors là, il faut bien comprendre une chose, c'est que les dons préternaturels sont définitivement perdus. On ne peut pas les récupérer même par la confession. Vous pouvez passer des heures et des heures à jour, les bras en proie devant le Saint-Sacrement, ce n'est pas ça qui va vous rendre les dons préternaturels. L'impassibilité, c'est fini. L'immortalité, c'est fini. La science infuse, c'est fini. L'intégrité, c'est fini. D'accord? Donc, deuxième conséquence du péché, le désordre. Troisième conséquence, la damnation. La damnation, c'est ce qu'on appelle la peine du dent. Bon, la peine du dent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on commet un péché, l'âme est immédiatement coupable, si vous voulez, va être châtiée à cause de ce péché, immédiatement par une peine qu'on appelle la peine du dent. Alors, quelle est la différence entre la peine du dent ici-bas et la peine du dent après la mort? La peine du dent après la mort, elle est définitive. Pourquoi? Parce que c'est une peine éternelle. Alors, la peine du dent ici n'est pas définitive. Mais c'est une peine du dent aussi. Dent dans le sens de damnation, le damné, c'est celui qui est coupé de Dieu. Donc une personne qui est dans le péché mortel, qui tombe dans le péché mortel, est damnée ici-bas. C'est-à-dire qu'il est coupé de Dieu ici-bas. Et il faut comprendre pour un catholique que la pire des choses qui puisse lui arriver, c'est se retrouver dans cet état de damnation. Donc les saints expliquaient comme ça que le péché mortel entraîne la damnation ici-bas. Mais évidemment, le bon Dieu qui aime ses enfants va essayer de récupérer cette âme en donnant des grâces, qu'on appelle des grâces actuelles, pour ramener cette âme vers le bon Dieu. Ramener vers cette âme d'abord à la contrition parfaite, dans un cas où il n'y a pas de prêtre par exemple, ou le ramener à la contrition parfaite par l'intermédiaire du sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence, ça transforme une charité imparfaite en une charité parfaite. Transforme l'attrition en contrition. D'accord? Donc la peine éternelle, encourue par les péchés, Qui peut remettre une telle peine si ce n'est Dieu même, juge de tous les hommes contre lesquels l'homme a péché? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trois dommages qui sont provoqués sur l'âme après le péché mortel, la tâche, le désordre et la damnation. L'homme est incapable par ses propres forces d'enlever la tâche, d'enlever le désordre, d'enlever la damnation. Conclusion. Pour que l'homme sorte du péché, il lui faut de toute nécessité le secours de la grâce et pour le don habituel et pour le mouvement intérieur. Donc tout vient de Dieu. Hein. Alors, il y a une objection qu'on nous donne, qu'on nous donne souvent. C'est la phrase de saint Paul aux Éphésiens qui dit « Levez-vous et le Christ vous éclairera ». Alors, c'était une objection qui était beaucoup utilisée par les pélagiens. Mais ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que pour se lever, il faut déjà que le libre arbitre accepte d'être soumis à la volonté divine. Lorsque l'homme, au moyen de son libre arbitre, mu par Dieu, s'efforce de sortir du péché, il reçoit alors la lumière de la grâce sanctifiante. La grâce justifiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le libre arbitre ne peut pas être mu au bien sans l'intervention d'une grâce du bon Dieu. Alors les gens vont dire, observez, si c'est l'intervention du bon Dieu, il est où le libre arbitre? Là, on touche au mystère. C'est pour ça que quand on étudie la grâce, tout exactement d'Aquin, il faut savoir s'arrêter. Et à un moment, il faut savoir s'arrêter en disant, je ne peux pas aller plus loin. C'est comme saint Thomas d'Aquin, si vous voulez, qui a bien écrit du traité de la Sainte Trinité, c'est ce que lui avait dit le bon Dieu, mais il n'a pas pu détruire le mystère. On ne peut pas détruire le mystère.
Ça revient pas à la destination.
Et exactement. Il y a trois grands mystères, l'incarnation, la Sainte Trinité et la rédemption. Vous pouvez étudier, vous pouvez prier, vous pouvez creuser la chose, mais vous ne pouvez pas détruire le mystère. Sauf que vous êtes un moderniste, à ce moment-là, justement, le moderniste cherche à détruire le mystère parce qu'il s'estime humilié d'avoir à croire quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. D'accord ? Il ne peut pas expliquer lui-même. Donc l'homme ne saurait par lui-même se réintégrer dans la vie spirituelle. Il a besoin que la lumière de la grâce lui soit donnée de nouveau, comme un corps mort ne peut se ressusciter si l'âme ne revient à lui. Voyez ? Donc c'est vraiment le bon Dieu qui fait tout le travail. Alors vous avez ceci-là, j'utilise beaucoup, je l'ai déjà dit, je conseille ceux qui veulent un peu plus travailler, j'utilise beaucoup la petite somme théologique du père Le Breton, qui est assez ancien. Hein. C'est un livre qui vient de 1860, donc un livre, il y a 5 volumes, une par partie de la somme. Donc prima pars, prima seconda, seconda seconde, tertia pars, et le supplément. Et c'est bien expliqué, donc ce reproche que je fais, c'est qu'on ne voit pas très bien ce qui est de saint Thomas d'Aquin, ce qui est du père Le Breton là-dedans, mais il y a bien l'esprit thomiste. Il faut bien ne pas oublier que pour juger de la valeur théologique d'un docteur, il faut voir son attachement à saint Thomas d'Aquin, depuis le temps de saint Thomas d'Aquin. Alors, donc tout est expliqué, je reviens rapidement à ce qui est maintenant le texte même de saint Thomas d'Aquin. J'ai déjà dit plusieurs fois, sur le polycopié, c'est que du saint Thomas, pratiquement rien de moi. C'est du saint Thomas, parfois je mets un ou deux mots pour lier les choses, mais c'est uniquement du saint Thomas, c'est des copies-collées de la somme, d'accord? Donc, ici, saint Thomas cite saint Jean Damascène, donc en page 81, article 7, que le péché va contre la nature, un péché contre nature, pourquoi? Un péché contre nature, parce que c'est contre la nature de l'âme que l'âme, par nature, veut s'élever vers le bon Dieu. D'accord ? Le péché empêche l'oiseau de voler, en quelque sorte, c'est ça. Donc, et si le péché n'était pas contre nature, le bon Dieu n'avait pas besoin d'envoyer son fils pour mourir pour nous. C'est ce qu'on a expliqué au début. Donc Dieu vient justement parce que le péché contre la nature, tord la nature. Et c'est pour ça que dans le monde moderne, on voit très bien, c'est évident, que le démon travaille pour, surtout avec les enfants, pour amener les enfants constamment à vivre contre nature. Et contre la nature. Et c'est ce qui se passe maintenant avec toutes les imbécilités modernes où on essaie d'expliquer à un gamin qui peut choisir d'être un garçon ou une fille, quoi. Pour ceux qui lisent l'anglais, je conseille beaucoup les livres de Judith Reisman. Qui a écrit des livres justement sur tout le travail de SAP fait par Kinsey, un Américain, qui a fait tout un travail de SAP. C'est lui qui a introduit dans l'esprit américain, supporté par la fondation, les fondations franc-maçonniques américaines, c'est lui qui a introduit l'esprit, si vous voulez, que l'enfant est sexuel dès le début, quoi. Et en même temps, c'est très intéressant de voir qu'il a aussi travaillé avec Elizabeth Sanger, c'est Elizabeth Sanger, quand les gens me demandaient, quand j'étais aux États-Unis, quel est le, pour vous, même en France, j'ai la même chose, quel est pour vous le pire individu qui ait jamais existé dans le monde moderne? Je réponds toujours, les gens attendent toujours qu'on dise Adolf Hitler. Évidemment, je répondais toujours Elizabeth Sanger. Elizabeth Sanger, c'est elle qui a fondé le planning familial. Donc elle est celle qui a introduit l'esprit contraceptif dans le cœur des femmes, qui est le cœur des mères de famille, qui a détruit complètement. Comme ça, elle a détruit la maternité, détruit la féminité de la femme et transformé la femme en simplement objet. Et alors c'est très intéressant de voir qu'il y a des tas de choses que disait Elizabeth Sanger qui sont soigneusement occultées par le planning familial, parce qu'Elizabeth Sanger, donc c'est autour des années 40 ça, Elizabeth Sanger était à fond pour l'eugénisme. Elle voulait stériliser tous les noirs, rien que ça, et tous les pauvres des États-Unis, parce qu'ils considéraient que c'était un poids insupportable pour la civilisation, qu'il fallait tous se stériliser. Hein, et c'est inadmissible, évidemment. Bon. Alors, je reprends rapidement le texte donc, que vous avez sous le nez avec le polycopier en bas de la page 81. Donc, l'homme ne peut pas par lui-même être justifié, c'est-à-dire passer d'état de péché à l'état de justice. Pour passer de la mort à la vie spirituelle, il faut que celui qui est l'auteur de la vie me donne cette étincelle qui va rallumer la flamme. Donc, je sais l'exemple que je viens de vous donner. Je suis perdu dans la nuit, je peux pas, j'ai pourtant du gasoil ou du kérosène dans ma lampe, ou de l'huile dans ma lampe, je ne peux pas rallumer la mèche parce que j'ai pas de briquet, j'ai pas de moyen, il pleut, je ne peux pas faire du feu, j'ai pas de moyen de faire du feu, donc j'attends. Je suis totalement dépendant. Après, Dieu va arriver, va rallumer la mèche, bon, et il va me donner les grâces pour que je protège ma mèche, pour que ça ne se reproduise pas, que je ne perde pas la lumière de nouveau, d'accord? Donc, d'aucune manière, l'homme ne peut se relever du péché par lui-même sans le secours de la grâce. Se relever du péché, c'est pour l'homme restaurer en lui ce qu'il a perdu en péchant. D'accord ? Donc, après, en bas de la page, donc, vous avez les trois points qui sont très importants, qu'il faut bien garder dans son esprit. Donc, le triple dommage, voilà, c'est mis sous une forme un peu différente, ça dépend des traductions. Souillure, corruption, dette de peine. La souillure, ça correspond à la tâche. Pourquoi ? Parce que la laideur du péché le prive de la beauté de la grâce. C'est une très belle expression, c'est la beauté de la grâce. Il y a une beauté essentielle à l'âme en état de grâce qui est détruite par le péché. Il y a une noblesse de l'âme qui ne peut pas être détruite par le péché, à savoir le caractère. Le caractère baptismal ne peut pas être détruit par le péché, heureusement d'ailleurs. Donc, comme le caractère baptismal, ça c'est très important à comprendre, comme le caractère baptismal ne peut pas être détruit, le caractère baptismal fait de nous des enfants de Dieu. Donc, comme le caractère n'est pas détruit, même un homme qui vit dans le péché mortel jusqu'au cou est toujours enfant de Dieu s'il est baptisé. Bon, c'est un enfant qui fait un peu du n'importe quoi, et c'est autre chose, mais il est toujours enfant de Dieu. C'est comme un enfant, si vous voyez, une mère de famille, un père de famille qui a un enfant qui est impossible, qui fait les 400 coups à longueur de journée, et qui demande pardon et qui recommence le lendemain matin la même faute pour laquelle il a été puni la veille. Et tout ça se renouvelle. Eh bien, les parents aiment toujours cet enfant. Non seulement ils l'aiment, on peut même aller plus loin que ça, ils doivent aimer davantage l'enfant qui est plus difficile. C'est facile d'aimer un enfant qui est facile. Beaucoup plus difficile d'aimer un enfant qui est justement très difficile. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Dieu nous aime tellement qu'il a un amour tout particulier pour les pécheurs. Donc, plus quelqu'un est pécheur, plus quelqu'un a besoin de la grâce du bon Dieu. Parce qu'il est plus, si vous voulez, dans les sables mouvants. Imaginez quelqu'un qui vient de mettre un pied dans le sable mouvant, le temps de corde, on tire, ça va. Si quelqu'un, au contraire, est dans les sables mouvants jusqu'au bout du nez, là, il s'agit de prendre les grands moyens. Il faut un tracteur et tirer beaucoup plus fort pour le sortir de là. Oui, c'est la même chose. Donc, trois choses. La souillure, ça correspond à ce que j'appelais la tâche. C'est ça ? Oui. Souillure correspond à la tâche. Deuxième, le désordre. Sa bonté naturelle est corrompue car sa volonté n'étant plus soumise à Dieu, il en résulte que la nature tout entière de l'homme pécheur est privée de son ordre. Ça correspond donc au désordre. La souillure, c'est la tâche. la privation de l'ordre, c'est le désordre. Et enfin, la dette de peine qui correspond à la damnation. La dette de peine fait qu'en péchant mortellement, il mérite la damnation éternelle. Donc il y a un mérite, si vous voulez, on peut expliquer ça comme ça, quelqu'un qui vit dans le péché mortel, qui commet un péché mortel, a déjà un pied en enfer. Il n'a pas le deuxième pied encore, donc il est à moitié tombé, mais il n'est pas encore complètement tombé dans la crevasse. Une fois qu'il est tombé, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'il est encore dans le temps. N'oublions pas que l'enfer et le paradis, d'ailleurs, les deux, sont des choses qui sont hors du temps. Donc ne peut tomber en enfer, ne peut aller au paradis que quelqu'un qui est hors du temps. Tant qu'on est dans le temps, ce n'est pas possible. Hein? Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se décourager, même quand on est tombé, on est dans la crevasse jusqu'au bout, au bout du nez. Il reste encore le bout du nez qui sort, donc on peut encore vous retrouver. L'hélicoptère qui passe, l'hélicoptère surnaturel, voit le bout du nez, envoie une corde et rattrape le bonhomme. D'accord ? C'est un petit peu ça. Hein ? Donc, conclusion en bas de la page 81, il est manifeste que chacun de ces trois dommages ne peut être réparé que par Dieu. Donc, première chose, une telle beauté, page 81, ne peut être restaurée que par une nouvelle illumination de Dieu, de la nécessité d'un don habituel qui est la lumière de grâce. Donc, ce qu'on appelle, ce que saint Thomas appelle la grâce habituelle, c'est la grâce sanctifiante, c'est la même chose. Grâce habituelle, grâce sanctifiante, c'est un synonyme. D'accord ? Dans certains livres, on trouve grâce habituelle, dans d'autres, grâce sanctifiante. Grâce habituelle, ça veut dire qu'il y a un habitus de gloire, un habitus plus de grâce, pardon, dans cette âme. Cette âme est habituellement amie de Dieu.
C'est comme la grâce
habituelle ? Non. Ah. Non, quelle est la grande différence ? La grâce habituelle, une bonne question, la grâce habituelle, la grâce sanctifiante ne peut être que dans une âme en état de grâce. La grâce actuelle, c'est un coup de pouce, si vous voulez, que donne le bon Dieu pour tirer quelqu'un du péché mortel. Donc, la grâce actuelle est compatible avec le péché mortel, pas la grâce sanctifiante. D'accord ? Donc, de même, l'ordre de la nature qui suppose la soumission de la volonté à Dieu ne peut être établi que si Dieu attire la volonté de l'homme. La dette de peine éternelle ne peut être remise que par Dieu contre qui l'offense a été commise et qui est le juge des hommes. Donc pour que l'homme se relève du péché, le secours de la grâce est donc requis à la fois sous la forme de don habituel, grâce sanctifiante, et sous forme de motion divine intérieure, c'est la grâce actuelle. L'homme reçoit la lumière de la grâce justifiante quand, par son libre arbitre, mu par Dieu, voilà la chose importante, il fait l'effort nécessaire pour sortir du péché. Donc le libre arbitre ne peut pas se mettre, si vous voulez, on ne peut pas passer, prendre une explication très moderne mais qui aide les gens à comprendre. Imaginez quelqu'un qui veut démarrer la voiture, faire avancer la voiture. Il faut d'abord mettre la première. Tant que la première n'est pas enclenchée, il n'y a pas de problème, votre voiture elle ne bougera pas. Même s'il y a un moteur super puissant. Il faut d'abord enclencher la première et à ce moment-là, on débraye et la voiture commence. La voiture peut commencer à avancer. C'est la même chose. Donc le libre arbitre, si vous voulez, est mu par Dieu. Donc, l'homme a prévu que si la première est enclenchée, la voiture va avancer. Mais pour enclencher la première, il faut que le monde s'en mêle. D'accord ? Alors, encore une fois, on touche au mystère. Attention à respecter ce mystère. Mais je pense que la bonne explication, c'est celle qui est donnée là par saint Thomas. Donc, le libre arbitre est mu par Dieu. C'est la façon de répondre à l'objection qu'on entend tout le temps. Donc, on se lève, puis le Christ nous éclaire. Mais se lever, c'est une fonction du libre arbitre. Or, ce libre arbitre est mu, ne peut agir sans être mu par Dieu. Donc, il faut que Dieu permette à ce libre arbitre de se mettre en première, si vous voulez, pour que le libre arbitre commence à faire bouger la machine. Mais il y a le bandit derrière. D'accord ? Pour tout ce qui dépasse la conclusion de saint Thomas, pour tout ce qui dépasse la nature, tout ce qui dépasse la nature, eh bien, j'ai mon téléphone que j'ai oublié d'arrêter. Pour tout ce qui dépasse la nature, dit saint Thomas, on est obligé de faire intervenir un bien extérieur, un secours extérieur, d'accord ? Or, quand la nature humaine déchoit en commettant le péché, elle perd son intégrité, se trouve corrompue. Donc ça, il faut bien... Vous voyez, ces articles sont tellement importants, tellement beaux, qu'on peut vraiment méditer dessus. Et je conseille beaucoup aux fidèles qui sont habitués à faire la méditation tous les jours, par exemple, de prendre ces trois points pour méditation. On n'y pense pas, vous voyez. Saint Thomas d'Aquin nous aide à méditer. C'est des articles, c'est presque, presque considérer la certaines passages, la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin comme des lectures spirituelles. Vous voyez. Bon, quand je commets un péché mortel, j'amène trois malheurs sur mon âme. La tâche, le désordre, la damnation. La tâche, ben, j'avais une âme magnifique qui était toute belle, toute éclairée, on ne voit plus rien. Non, il n'y a plus de courant. Eh ben, on ne voit plus la beauté de la pièce parce qu'il n'y a plus de courant. Deuxièmement, un désordre. Il y avait un ordre, tout était ordonné, puis il y a un bandit qui est rentré dans la maison, qui a tout mis sans dessus dessous, il a tous les livres qui étaient bien rangés dans la bibliothèque, tout est par terre, il y a un désordre, une pagaille invraisemblable dans mon âme. Ça, c'est la deuxième conséquence du péché mortel. Troisièmement, dette de peine, à cause de ce que j'ai fait, je mérite la damnation. Si je meurs dans cet état, c'est l'enfer. Le bon Dieu, dans sa miséricorde, j'espère, va me donner la grâce pour que je regrette mes péchés, au moins surnaturellement, pour que j'ai déjà un minimum de contrition imparfaite, pour que je puisse me confesser. Et à ce moment-là, au moment où je me confesse, je reçois l'absolution, ou au moment où, avec la grâce du bon Dieu, j'élicite un acte de contrition parfaite, c'est comme si on remettait le plomb, si on remettait le fusible qui vient de sauter, hop, la lumière revient. C'est un peu ça, quoi. C'est des comparaisons très modernes, mais on a le droit d'utiliser des comparaisons modernes pour essayer d'expliquer. Je me rappelle mon souvenir, l'abbé Williamson a un cours comme ça, c'est lui qui m'a fait le cours sur la grâce. Et il nous a donné un cours une fois, on n'avait rien compris. Il a expliqué Saint Thomas. Et il nous regarde et il nous dit, vous avez compris ? On regardait tous nos doigts de pied parce que personne n'avait compris, sauf l'abbé Léné qui était tellement plus intelligent que nous, qui avait compris, les autres n'avaient rien compris. Moi en tout cas, je n'avais rien compris. Alors, j'ai vu passer à Williamson poser cette somme théologique. Il est parti dans une histoire invraisemblable d'un hélicoptère qui venait chercher quelqu'un qui était tombé au fond d'une crevasse, qui lui lançait un treuil. On descend avec le treuil pour récupérer le gars. Et puis, on est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hélicoptère? Et ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Et après, il a dit, vous avez compris maintenant? Ben oui, on a compris. Et bien, il avait utilisé une bête histoire d'hélicoptère, tout le monde avait compris ce qu'il voulait dire. Et Saint Thomas d'Aquin, c'est vrai, pas d'hélicoptère. Il n'y a rien, pas d'hélicoptère dans la symptologie de Saint Thomas d'Aquin. D'accord? Donc, vous voyez, c'est quand même très important de méditer là-dessus, et comprendre la gravité du péché. En étudiant la somme, on comprend la gravité du péché, on comprend plusieurs choses. La gravité du péché, la nécessité de la grâce du bon Dieu pour m'en sortir, et surtout la miséricorde infinie de Dieu à l'égard du pécheur. Voilà, les conséquences du péché originel. Et c'est ça qui... On voit les conséquences actuellement, tout le monde peut voir ça actuellement, c'est partout. Les conséquences du naturalisme et du pélagianisme de Bergoglio, on voit très bien ça. Le monde s'enferme dans le péché, s'enfonce dans le péché. Pourquoi ? Parce que Bergoglio ne croit plus au péché originel, c'est évident. C'est Cardinal Pi qui disait le plus grand coup des démons, c'est la fée croire qu'il n'existait pas. Et c'est tout à fait ça. Bon, on passe à l'article 8 pour avancer un peu. Article 8. L'homme sans la grâce peut-il ne pas pécher ? L'homme peut-il sans la grâce éviter le péché ? Eh bien, c'est pareil. Donc, c'est ce que j'ai expliqué au début du cours. Il faut le sustinere. C'est-à-dire, le bon Dieu m'a remis en grâce. Il n'y a plus de courant dans la maison. Il a remis le plomb. Il a réenclenché le disjoncteur. Il a réenclenché le disjoncteur, il y a de nouveau de la lumière dans ma pièce. Et puis, le bon Dieu a remis un peu tous les livres en place dans la bibliothèque, alors que le bandit avait tout envoyé par terre. Il y a de nouveau un ordre dans mon âme, il y a de nouveau une beauté dans mon âme, et j'ai perdu l'état de damnation dans lequel j'étais. Bon. Est-ce que je peux maintenant me maintenir dans cet état-là seul? Non. D'accord? C'est impossible. Donc, je ne peux pas rester sans retomber dans le péché, sans la grâce du bon Dieu. Alors voyons un petit peu ici ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc il va citer saint Augustin. Je vous ai dit que saint Thomas d'Aquin reprenait la théologie de saint Augustin. Voilà ce que disait saint Augustin. Si quelqu'un nie que nous devons prier pour ne pas succomber à la tentation, c'est celui-là mérite, je n'hésite pas à le dire, la répulsion à l'anathème. C'est énorme, hein? Je répète cette phrase. Si quelqu'un nie, saint Augustin, si quelqu'un nie que nous devons prier pour ne pas succomber à la tentation, celui-là mérite la répulsion et l'anathème. Pourquoi? Parce que le nier, c'est le nier en effet, que de prétendre que l'homme n'a pas besoin de la grâce pour éviter le péché qui lui suffit de sa propre volonté. Ça, c'est du pur pélagianisme. C'est le modernisme actuel. Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je peux tout faire par moi-même, je n'ai pas besoin du bon Dieu. Donc, prétendre que l'homme n'a pas besoin de la grâce pour éviter le péché, ma propre volonté suffit, c'est depuis les Janis, c'est condamné par l'Église. Prétendre qu'après un péché mortel, je peux regretter mon péché mortel de façon surnaturelle, c'est du pélagianisme. Prétendre que je peux m'en tirer tout seul, aller me confesser tout seul comme un grand, et que je peux avoir la grâce sanctifiante, retrouver la grâce sanctifiante par l'absolution, avec un degré suffisant de contrition, au moins imparfaite pour me confesser, par mes propres forces, c'est déjà du pélagianisme. Alors, la question qui se pose, on va aller étape par étape, première question qui va se poser, était-il possible pour Adam, avant le péché originel, d'éviter tous les péchés mortels ou vénériens sans le secours particulier de la grâce habituelle? Et il répond oui.
Parce qu'il avait été intègre.
Voilà, parce qu'il y a encore le don d'intégrité, exactement. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Adam, dans l'état primitif, voilà ce que dit saint Thomas, qu'Adam dans l'état primitif ait pu éviter tous les péchés mortels ou véniels sans le secours particulier de la grâce habituelle, on l'admet. Mais, pourquoi? Parce qu'il lui suffisait alors du secours général par lequel Dieu conserve sa créature dans le bien. Dieu conservait Adam et Ève dans le bien tant qu'ils étaient dans l'obéissance. Hein, c'est ce qu'il leur a dit. Vous ne pouvez pas manger de l'arbre qui est au centre du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le démon s'en est mêlé dès que le bon Dieu a tourné les talons. Le démon s'en est mêlé. Si vous mangez de ce fruit, vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme des dieux. Vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. Bon, c'est ce qui s'est passé. Mais tant que Adam et Ève s'étaient maintenus dans l'obéissance, eh bien, ils étaient amis de Dieu. Était-il possible pour Adam et Ève de commettre un péché mortel tant qu'ils étaient dans l'obéissance? Non. Donc, c'est ce que dit saint Thomas, est parfaitement exact. Donc, dans l'état primitif, avant le péché originel, Adam et Ève pouvaient éviter tous les péchés sans le secours particulier de la grâce habituelle. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans l'amitié du bon Dieu. Bon. Mais dans l'état de nature corrompue, ça c'est pour nous, l'homme a besoin, pour s'abstenir absolument du péché, de la grâce habituelle qui guérit la nature. Donc, premier point très important dans cet article, l'article 8. Donc là, on est à la page 82. Hein. Dans l'article 8, donc premier point important, Adam pouvait éviter, sans le secours particulier de la grâce habituelle, les péchés mortels ou véniels. Parce qu'il avait don d'intégrité. D'accord? Deuxième point, dans l'état de nature corrompue, c'est-à-dire après le péché originel, l'homme a besoin, pour s'abstenir absolument du péché, de la grâce habituelle qui guérit la nature. Je suis blessé, je suis tombé à terre, je ne peux pas m'enlever tout seul. Pourquoi? Parce que par la chair, si c'est symbole, je suis soumis d'esprit à la loi de Dieu, mais par la chair, j'appartiens encore à la loi du péché. Quand je suis en train de péché mortel, j'ai une espèce de chaîne, si vous voulez, qui me tire vers le bas. D'accord? Avec la grâce sanctifiante, dit saint Thomas d'Aquin, ça c'est le troisième point qui est important, on peut, avec la grâce sanctifiante, s'abstenir de tout péché mortel. Avec la grâce sanctifiante. Il est possible pour quelqu'un qui est en état de grâce, qui prie, qui utilise les sacrements, surtout le sacrement de pénitence et surtout le sacrement de la Sainte Eucharistie, il est possible pour une personne comme ça de rester en état de grâce. Il y a des saints qui ont la grâce et un signe de ne jamais avoir commis un péché mortel de leur vie. C'est le confesseur de sainte Thérèse d'Avila, de l'enfant Jésus, qui lui avait dit ça, et qui a révélé, parce qu'un prêtre a le droit, même après la mort de quelqu'un, de parler des qualités de la personne. Il n'a pas le droit de parler des confessions, des qualités de peuple. Et il a dit, autant que je sache, cette âme, sainte Thérèse de l'enfant Jésus, n'a jamais commis un péché mortel. Peut-être même jamais commis un péché véniel délibéré. Mais au moins jamais un péché mortel. Ça c'est sûr. Donc on peut, avec la grâce sanctifiante, s'abstenir de tout péché mortel. Il est possible pour quelqu'un, avec la grâce sanctifiante, de vivre toute sa vie sans péché mortel. Est-il possible, sans la grâce sanctifiante, de passer sa vie en péché mortel? Sans péché mortel? Non. Hein. Cependant, saint Thomas dit, quatrième point, on ne peut pas s'abstenir de tout péché véniel à cause de la corruption d'un péché inférieur qui n'est pas parfaitement rétabli. Ça veut dire que si je suis en état de grâce, je peux rester sans péché mortel, mais je ne peux pas rester sans péché véniel. C'est une expression qui traduit ça, même le juste pêche 7 fois par jour.
moins des péchés.
Voilà. Il y a des péchés, on dit que des péchés, même des saints ont commis des péchés veniens de fragilité, sauf la Sainte Vierge, elle est hors circuit parce qu'elle est immaculée conception. Bon, c'est pas pareil. Mais les autres, eux sont tombés, même les saints, les grands saints, tombés dans des péchés mortels, péchés véniels, pardon, pas péchés mortels, des péchés véniels de fragilité. C'est pratiquement impossible de ne pas, sauf grâce insigne que Dieu a donné qu'à la Sainte Vierge. Elle est la seule qui a eu cette grâce de l'Immaculée Conception. Et notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité, évidemment. Ça, c'est du bon sens. D'accord ? Donc, on peut s'abstenir du péché mortel dans l'état de grâce sanctifiante, mais on ne peut pas s'abstenir de tout péché véniel. D'accord ? La raison peut, dans la vérité, réprimer chacun des mouvements de cet appétit en tant que volontaire, mais assaillie de plusieurs côtés à la fois, elle ne peut pas les réprimer tous. Hein ? Imaginez un exemple qu'on peut donner, c'est imaginez un pauvre gars qui essaye de. Ce que nous disent les jeunes d'ailleurs, ils ont raison. Ils disent, mais bon, je suis dans les vignes, je vais m'acheter un truc dans une grande surface. Monsieur l'abbé, mais il faut que je regarde mes doigts de pied tout le temps parce que je regarde à droite, il y a des horreurs, je regarde à gauche, il y a des horreurs, je regarde en haut, il y a des horreurs, je regarde en bas, il y a des horreurs. Si je fais quoi? Je ferme les yeux, mais si je ferme les yeux, je vois plus où je vais. Et je me tapais la tête sur un poteau. Je fais quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas trop regardé, et puis vous dites, bah, je suis un peu en même temps, quoi. Je dis souvent aux gens, quand vous avez des grosses tentations, ce qui peut arriver à tout le monde, eh bien, répétez, par exemple, même en boucle, au mari conçu son péché, priez pour moi qui recours à vous. Au mari conçu son péché, priez pour moi qui recours à vous. Et les mots vous fichent la paix, hein. Mais il n'est pas possible pour quelqu'un, un homme surtout, de passer dans une grande surface, avec la tenue des femmes en général, sans avoir au moins une certaine commotion, je dirais, qui rend commotion physique, commotion naturelle, je dirais, à cause de ce qu'il voit, c'est impossible. Sauf si la Sainte Vierge, vous êtes la Sainte Vierge, là c'est autre chose. La Sainte Vierge Marie, elle était capable, parce qu'elle avait plus ce que saint Thomas d'Aquin appelle le fome expectative. Le fome expectative, c'est la source du péché. On a en nous une source du péché, ce qui fait qu'il y a, si vous voulez, une espèce de bile qui sort des choses amères de notre âme constamment à cause du péché originel, des conséquences du péché originel plus exactement, puisque pour un baptisé, le péché originel n'existe plus. Mais le problème vient du fait que même si on est baptisé, il y a toujours la concupiscence, la faiblesse, il y a toujours l'ignorance. Et donc il y a c'est ce qu'on appelle les blessures du péché originel qui sont toujours là. Et ça, vous ne pouvez rien faire. Et la concupiscence, il y a une que j'oublie là. Il y a l'ignorance, la faiblesse, la malice et la concupiscence. Et le fait que vous ayez en vous, que vous le vouliez ou non, même si vous sortez de la communion ne va pas supprimer la concupiscence, la communion ne va pas supprimer l'ignorance, la communion ne va pas supprimer la malice et la communion ne va pas supprimer la faiblesse. Hein. C'est comme les gens qui viennent me voir, monsieur, est-ce que vous pouvez dire une messe demain matin? J'ai un examen très, très important. Est-ce que vous pouvez dire une messe ce soir ou demain matin pour que je réussisse mon examen? Vous avez travaillé pour cet examen? Non, monsieur, j'ai rien fichu du tout. Ah, mais attendez, est-ce que vous croyez que le bon Dieu est obligé de faire un grand miracle pour vous donner l'examen? Ben, vous avez raté votre examen. Hein? Si vous avez fait tout ce que vous pouviez, bon, d'accord, je vais dire votre messe pour ça, mais je peux la dire, c'est pas ça qui va vous. Le bon Dieu n'est pas obligé de vous faire un miracle pour vous donner un examen que vous n'avez pas mérité. D'accord? Alors, un cinquième point, dans l'article de Saint-Thomas, c'est un article très important, l'article 8. Hein. Donc, cinquième point. Est-ce qu'on a un feuille ensuite? Non,
c'est ça.
Non, je me trompe de feuille. Article 8, c'est ça. Donc, cinquième point. Avant que la raison humaine soit réparée et rétablie dans la grâce justifiante, l'âme peut éviter chaque péché mortel en particulier, et cela pendant un certain temps, mais ne comptez pas qu'elle s'en préservera bien longtemps. Hein. C'est-à-dire que même sans la grâce sanctifiante, un homme est capable, un homme qui a commis un péché mortel, qui a perdu la grâce sanctifiante, peut éviter pendant un certain temps, un temps relativement court, le péché mortel. Mais il ne sera pas capable de le faire pendant longtemps. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, la raison, dès qu'elle manque de soumission à Dieu, se laisse aller à beaucoup de désordre dans ses actes propres. D'accord ? Donc il subira infailliblement l'influence d'une infinité d'objets qui, soit en l'attirant, soit en le repoussant, l'éloigneront des préceptes de Dieu et le feront pécher mortellement. C'est l'exemple que je vous donnais du gars qui se promène dans une grande surface pour acheter je ne sais pas trop quoi. Il ne peut pas ne pas être assailli par les millions de démons qui sont dans ces grandes surfaces. Hein. Il ne peut pas ne pas être troublé par les images impures qu'il voit à droite et à gauche, les filles qui surveillent comme les prostituées partout. Bon. C'est impossible. Le bon Dieu va donner des grâces pour que cette personne puisse lutter, mais il ne peut pas ne pas ressentir, si vous voulez, une commotion intellectuelle, une commotion physique ou morale. D'accord ? Impossible. C'est pour ça qu'on les gens en parlent souvent. On en parle, les gens me disent, vous savez, qu'est-ce que je dois faire ? Il y a une jeune fille qui est à côté de chez moi, elle est super mignonne. Bon, ben, tu vois le problème. Même si elle est mignonne. Et alors, c'est un péché d'être mignon ? C'est un péché pour elle d'être mignonne ? Non. C'est un péché pour vous d'avoir remarqué qu'elle est mignonne ? Ben non, pas de péché. Même si elle trouve. Ça vous troublerait pas, je vous conseillerais d'avoir un médecin. Bon, c'est normal qu'il y ait une certaine tentation. C'est comme si quelqu'un me disait, monsieur l'abbé, je meurs de faim et je suis tenté de manger. Ben, évidemment. Monsieur l'abbé, aujourd'hui c'est jeûne et abstinence, hein, on est de l'oublier, aujourd'hui c'est la vigile de l'Immaculée Conception, c'est jeûne et abstinence. Monsieur l'abbé, j'ai faim. Ben, heureusement que vous avez faim. Si vous n'aviez pas faim le soir, ça pourrait quoi ? Ben, ça pourrait que vous n'ayez pas fait le jeûne et abstinence, que vous êtes fichu du monde, que vous avez grignoté toute la journée, hein, vous n'avez pas faim. Hein. Bon, et bien, le père, il s'appelait l'abbé. Père Barrière, qui nous raconte cette histoire, je ne sais pas combien de fois, hein, il tenait ça, tu. Ah, celui qui est seulement au bout de la langue, celui qui a fondé les Chabeuils. Bon, c'est pas grave, je ne retrouve pas son nom actuellement, je perds mémoire, moi. Donc, il racontait l'histoire d'un condamné à mort qui avait des révélations extraordinaires à faire, qu'il n'avait jamais faites, donc il était condamné à mort après avoir trucidé je ne sais pas combien de personnes. Et donc, il est condamné à mort, on lui passe la corde autour du cou, et puis on va le pendre, et puis il commence à être pendu, et puis il fait un signe qu'il a quelque chose à dire. Alors, vite, on le dépend, ça y est, il va faire la grande révélation. Et alors, le juge dit, mais qu'est-ce que vous avez à dire ? Ben, j'étouffe ! Ben, évidemment, on va étouffer, vous êtes en train de mourir, c'est normal qu'il étouffe, d'accord ? Mais c'est la même chose avec là. Quand les gens me disent, monsieur l'abbé, je suis tenté. Tenté, c'est pas une tentation, c'est pas un péché. Hein, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Le bon Dieu, il ne faut pas dire ne nous soumet pas à la tentation, ne nous soumettez pas à la tentation, ce n'est pas en tant que tel le bon Dieu qui soumet directement à la tentation, il peut soumettre indirectement à la tentation. Le bon Dieu, encore une fois, il faut bien expliquer ces choses parce que Bergoglio raconte encore de telles bêtises là-dessus dernièrement, le bon Dieu peut permettre qu'une tentation soit donnée. Il a permis par exemple que Saint Joseph soit tenté. En voyant son épouse revenir enceinte alors qu'il n'était pas tout à fait au courant de ce qui se passait. Bon, une tentation n'est pas un péché. Le bon Dieu peut permettre, pour je dirais, juger la valeur d'une âme, peut permettre que cette âme soit tentée. Ça ne veut pas dire qu'il veut que cette personne pêche, bien sûr que non. Permettant la tentation, ce qu'on appelle une tentation de séduction. Il y a une tentation de séduction, c'est celle qui vient directement du démon. Mais il y a aussi des tentations, si vous voulez, qui sont permises par le bon Dieu. Le bon Dieu permet que telle personne soit tentée pour tout simplement juger du degré d'amour que cette personne a pour lui. D'accord ? Donc, on finit ça. Donc, c'est ce que dit Saint Thomas d'Aquin. Il est sans doute par l'acte réfléchi de la raison, on peut agir contrairement à une fin préconçue, en dehors d'une inclination habituelle, mais comme il est impossible que l'on soit toujours dans cet état de réflexion, on en revient bientôt à suivre les désirs de la volonté désordonnée et séparée de Dieu, quand la grâce n'a pas promptement rétabli dans l'ordre dont elle s'est éloignée. C'est-à-dire, quand on est dans le désordre, évidemment, il y a des conséquences. D'accord ? Le bon Dieu, par la grâce sanctifiante, nous redonne, remet de l'ordre dans cette âme. D'accord ? Alors, objection qu'on entend très souvent. Si l'homme, comme dit saint Thomas d'Aquin, qui est dans l'état de péché ne peut éviter le péché, donc il est par là même excusé. C'est finalement ce que disaient Luther.
On peut pécher.
Donc, ou c'est ce que nous disent les prêtres. Moi, j'ai des prêtres qui m'ont sorti ça. Hein. Je connais un prêtre espagnol qui m'a sorti ça comme ça en face. Il me dit, le bon Dieu demande des choses impossibles par les commandements, plus personne ne peut suivre actuellement. Voilà. Point final. Et il prêchait ça. Vous voyez un peu les catastrophes au niveau apostolique. Il prêchait en disant, le bon Dieu, par les 10 commandements, demande des choses qu'un jeune homme au XXe siècle est incapable de suivre. Alors évidemment, ça veut dire, bon, on fait ce qu'on veut. Oui, ça c'est pur protestantisme. Crois fortement, pêche plus fortement encore. Le bon Dieu sait que les commandements, ben, personne ne peut les suivre au XXIe siècle, donc tu peux pêcher tout ce que tu veux, tu es sauvé par la foi, puisque le bon Dieu est mort pour toi, du moment que tu crois que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi, alléluia, tu vas au ciel. Pas comme ça que ça se passe, d'accord? Donc, réponse de saint Thomas, hein, comme c'est par sa faute que l'homme ne se dispose pas à sortir du péché et à rentrer en grâce avec Dieu, le péché qui ne saurait éviter sans la grâce est imputable. C'est l'homme qui s'est mis dans cette mauvaise volonté, dans cette mauvaise situation. Vous voyez, on peut expliquer ça d'une autre façon en disant que, c'est très humiliant, mais c'est exactement la position de saint Thomas d'Aquin. Si je vais au ciel, c'est grâce au bon Dieu. Si je tombe en enfer, c'est ma faute. D'accord ? Je ne peux pas dire, si je tombe en enfer, c'est la faute du bon Dieu qui ne m'a pas donné la grâce sanctifiante. Non. Si vous tombez en enfer, c'est votre faute, c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation-là en utilisant votre libre arbitre et en coupant votre libre arbitre de l'influence de la grâce. Vous voyez ? Alors, on reprend maintenant rapidement pour résumer tout ce que je viens de dire. Il faut revenir. Donc, page 82, article 8. Donc, vous trouvez tous les points que je viens d'expliquer sur résumé sur le polycopier, page 82. Donc, premier point, dans l'état de nature intègre, même sans la grâce habituelle, l'homme pouvait ne pas pécher, ni mortellement, ni venialement, avant le péché originel, pour Adam et Ève, on l'a déjà expliqué, à cause du don, du préternaturel d'intégrité. D'accord ? Dans l'état de nature corrompue, après le péché, l'homme, pour s'abstenir entièrement du péché, a besoin que la grâce habituelle vienne guérir la nature. Troisième point, dans cet état, l'homme peut éviter le péché mortel, qui relève de la raison, mais il ne peut éviter tout péché véniel à cause de la corruption d'un appétit inférieur et sensible. Il peut éventuellement, même après un état d'un péché mortel, éviter certains péchés mortels, mais pas longtemps. Et puis, de toute façon, il ne peut pas éviter tout le péché véniel, c'est impossible. Et cinquième point, que son âme demeure longtemps sans péché mortel, ce n'est pas possible. D'accord ? Bien. Pourquoi ? Parce que une telle réflexion n'est pas toujours possible pour l'homme. Il peut demeurer longtemps sans agir conformément au désordre de sa volonté détournée de Dieu, à moins que celle-ci ne soit promptement remise dans l'ordre par la grâce. C'est Dieu qui nous maintient, qui nous crée, qui nous maintient dans l'être. Donc l'homme peut éviter chaque péché pris en particulier. Il ne peut pas cependant les éviter tous si ce n'est par la grâce. Et parce que c'est sa faute, et qui, s'il ne se prépare pas à recevoir la grâce, il s'ensuit que le fait pour lui de ne pouvoir éviter le péché sans la grâce n'excuse pas du péché qu'il commet. C'est comme les enfants qui disent, à un moment, lui dit, pourquoi t'as fait une bêtise, pourquoi t'as pris un bonbon dans le bocal qui contenait les bonbons en cuisine, je t'ai vu. Ah ben, je sais pas, c'est ma main qui a travaillé toute seule, disent les enfants. La main qui m'a mis et qui a mis où, je sais, la main était dirigée par qui? La main s'est promenée toute seule, elle a ouvert le bouchon et elle a mis la main dedans. On a mis la main dedans pour récupérer un bonbon et le porter à sa bouche. Non, ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, encore une fois, donc, faites attention à cette objection protestante. Le protestantisme, c'est du pélagianisme pur. Hein. Donc, en fait, Luther, il a repris les idées pélagiennes. Il y a deux façons de tomber dans le pélagianisme. Soit on dit le péché originel n'existe pas, conséquence, c'est ce que ça fait Pélage, pas de péché originel. Soit on tombe dans le protestantisme en partant de la même base, si vous voulez, qu'une variante, en disant le péché originel existe, mais le péché originel a détruit mon libre arbitre. Donc je ne suis plus capable de résister au péché, et donc je ne suis plus responsable du péché que je commets. D'accord ? Donc, et c'est un petit peu, il faut travailler toutes ces choses-là. Hein. Ça, je conseille beaucoup à tous ceux qui écoutent le cours sur Internet de, pendant la semaine, revoyer le polycopier. C'est pour ça que j'ai mis un polycopier. Hein. Pratiquement, sans revoir le polycopier, on décroche. Hein, parce que surtout, c'est des parties un peu plus compliquées comme celle-ci sur la grâce. Donc, la prochaine fois, Dieu aidant. Donc, on commencera, on en est où là ? Article 9, donc. Article 9 de la page 82. Donc, je vais noter ça pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on est combien ? On est 7. 7, 12. Donc, bonne fête de la de l'Immaculée Conception, hein, demain, mais c'est 7h30 si vous voulez. Amen. Bon, on va finir par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.